Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Soldats, marins et aviateurs des forces expéditionnaires alliées, les espoirs, les prières de tous les peuples épris de liberté vous accompagnent.
RTL.
Il n'y a pas un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran.
Je propose un décret d'accusation contre Robespierre.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les archives recèlent des trésors, on y plonge tout de suite sur RTL. Bonsoir Jean-Pierre Guénaud.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes écrivain, directeur d'édition. On va découvrir grâce à vous ces pépites découvertes dans les archives. On va expliquer, décrire votre démarche dans un instant. D'abord une première histoire qui nous transporte. On a écouté l'extrait d'un film avec Robespierre qui nous transporte un an après la Révolution française. Que peut-on admirer au musée Carnavalet, aujourd'hui à Paris, qui concerne cette époque?
Un document tout à fait étonnant. Il faut rappeler qu'à la fin de la Terreur, Robespierre a fait raccourcir à peu près 40 000 personnes, quand on compte les exécutions expéditives. Et donc tout le monde le craint, personne n'ose l'arrêter. Alors il erre avec ses amis et son frère, et finit par se réfugier à l'hôtel de ville, dans une salle. Et là, il va fomenter un nouvel appel à l'insurrection des Parisiens. Mmh. Alors ils sont en plein travail, mais les députés de leur côté en ont assez. Ça fait plusieurs fois qu'ils essayent de faire arrêter cette faction, ils n'y arrivent pas. Mais personne n'ose l'arrêter. Oui. Alors ils envoient une délégation conduite par Barat avec le fameux gendarme Merda dont nous avons tous appris le nom sur les bancs de l'école. Et là, Robespierre est en train, il est le dernier à signer un appel à l'insurrection. Il est en train de signer son nom. Il est le dernier signataire, il y en a 6 ou 7 avant lui. R.O. Et à ce moment-là, la porte de la salle où ils sont réfugiés à l'hôtel de ville à Paris vole en éclats. Et là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Deux théories. Soit Merda lui envoie une balle dans la mâchoire, soit Robespierre se tire lui-même une balle. Et ce qui irait dans ce sens-là, c'est que son frère saute par la fenêtre et puis le bat, un de ses amis, se suicide. Donc les carottes sont cuites.
Ouais. Et du coup, cette archive dont vous nous parlez,
au moment où les portes volent en éclats, il est en train de signer son nom. Là, soit il reçoit une balle, soit il s'en tire une. Ouais. Toujours est-il que son sang tombe sur le papier. Donc c'est merveilleux parce que son nom n'est pas signé, il est esquissé, R.O. Il n'a pas eu le temps de finir de signer.
Mais
et son sang gicle sur le papier de la
paix. Et on voit encore, donc on peut aller voir ce document au Musée Carnavalet.
La radio a un point commun avec le livre, elle suggère, et c'est beaucoup plus fascinant d'imaginer les choses que de les voir.
Mais est-ce que la science a mis son nez là-dedans? Est-ce qu'on est sûr que c'est le sang de Robespierre?
Oh ben il y a sans doute une étude ADN à faire, oui.
Ça, c'est l'une des histoires que l'on peut découvrir dans le monde hors série, Instant d'histoire consacré aux 110 documents d'archives qui rendent l'histoire vivante. Ces archives, Jean-Pierre Guénaud, vous les appelez des diamants bruts. On y trouve quel type de documents?
Ce sont des pépites. Alors, vous y trouvez toutes sortes de choses, des images, des manuscrits, des articles de presse. Tout ce qui fait que pour toucher le cerveau des gens et leur mémoire, il faut passer par leur cœur. Et il faut surtout veiller à ce que l'histoire ne soit pas un compte-rendu d'autopsie.
Parce que
l'histoire,
des...
c'est quelque chose de très vivant. Le succès des émissions d'histoire, des chroniques historiques sur toutes les radios, y compris chez vos concurrents, le prouve. C'est quelque chose de merveilleux. Mais pour ça, il faut surtout pas que l'histoire soit un compte-rendu d'autopsie. Donc il faut passer par la case émotion et rappeler une chose. Il n'y a pas de petite et de grande histoire. Au moment où un événement se déclenche, on ne sait pas ce qui va se passer, et c'est ça qu'il faut restituer.
Vous prêchez des convaincus, on fait ça presque tous les soirs sur RTL dans la curiosité.
Mais ces objets, ces archives, ce sont des archives qui ne sont pas passées par le regard des historiens, c'est ça, qui n'ont pas été interprétées, elles sont brutes, pures, donc libres de toute interprétation.
Elles l'ont parfois été, mais le problème c'est que certains historiens, pas tous, la plupart d'entre eux font un travail magnifique, et je suis historien, mais on ne doit pas agir en greffier. Nous ne sommes pas les gardiens du temple. Il faut livrer au peuple son histoire. Et ça, la Grande Guerre, la guerre de 14, a été précédée d'une révolution. L'école de la Troisième République a fini le travail de l'Église et nos ancêtres ont définitivement appris à lire et à écrire. Et pour la première fois dans notre histoire, dans les tranchées, dans leurs carnets, dans leurs lettres, ils vont être capables d'écrire eux-mêmes leur histoire, comme par hasard. Et c'est ça qui m'a mis sur la piste. Cette histoire n'a pas grand-chose à voir avec celle dont nous avons fait l'apprentissage sur les bancs de l'école, parce qu'il s'agit d'une histoire balisée, souvent réécrite, formatée.
Écrite par les vainqueurs aussi.
Oui, écrite par les vainqueurs, avec ce qui est blanc et ce qui est noir. Mmh. Or, l'histoire est comme la vie. Elle n'est ni blanche ni noire. C'est un mélange complexe de fange et de ciel, d'ombre et de lumière. Et la vie, c'est la vie. Et c'est la vie qu'il faut restituer. Mais beaucoup d'historiens ont des complexes. Leur science n'est qu'une science humaine, c'est pas une science exacte. Alors pour pallier leurs complexes, ils ont deux mauvaises tendances. La première, c'est de jargonner. La deuxième, c'est de bannir l'émotion. Parce que l'émotion, c'est pas scientifique. Mais quand vous bannissez l'émotion, vous momifiez l'histoire.
Alors Jean-Pierre Guénon, on va en retrouver là de l'émotion avec cet autre document qui témoigne justement du tourbillon de l'histoire, un communiqué de presse signé Dwight Eisenhower. Alors on va peut-être rappeler quand même qui il était et quel était son rôle en juin 44.
C'est le grand patron du débarquement, c'est le grand patron des alliés, c'est lui qui orchestre tout. C'est un homme d'origine simple qui a été boursier pour faire West Point, il est formidable, mais il est très nerveux la veille du débarquement, le 5 juin 44 au soir.
Alors qu'est-ce qu'il
fait ? Parce que 40 jours avant, il y a eu un échec, il y a eu une grande répétition sur les plages du Devon en Angleterre. Les alliés étaient entre eux, certains singeaient les Allemands, 1000 morts. Pour une répétition, ça fait beaucoup. Alors il sait que ça ne va pas se passer comme ça, et il rédige, les Américains prévoient tout, un communiqué de presse à balancer le 6 au soir en cas d'échec. Dieu merci, il n'a jamais été publié. Il l'écrit de sa blanche main, au crayon noir, sur une feuille de papier, et grosso modo, il dit, ben voilà, notre tentative de débarquement n'a pas fonctionné dans la région du Havre et de Cherbourg. Les armes impliquées sont au-delà de tout doute, de tout soupçon.
Oui, il prend ça sur lui.
Et il prend tout sur lui. En disant, s'il y a un seul responsable pour ce fiasco, c'est moi et moi tout seul.
C'est ça.
Quel courage politique. Mais là, il sait qu'il va y avoir une troisième mi-temps. Vous savez que le nombre de morts le jour du débarquement, c'est pas grand-chose. Il y a eu une troisième mi-temps qui a été la bataille de Normandie, qui a fait énormément de morts et qui a duré des mois et des mois.
Donc il anticipe là-dessus.
Et il sait très bien qu'il va y avoir cette troisième mi-temps. Ouais. Donc il se trompe. Il sait que dans un mois... il saura à quoi s'en tenir, parce que la troisième mi-temps aura commencé. C'est un général expérimenté.
Et alors,
au lieu d'écrire June 5, nous sommes le 5 juin au soir, la veille du débarquement, il se trompe. C'est merveilleux, c'est là la force des manuscrits. Il écrit July 5. C'est-à-dire qu'il poste date d'un mois, parce que dans un mois, il saura. Ça révèle son état d'esprit, son appréhension, sa nervosité.
Alors la Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment une période qui est riche en archives édifiantes. Par exemple, cette note signée Jean Monnet, que vous reproduisez dans le monde hors-série Instant d'Histoire. Qui était Jean Monnet et à qui il envoie cette note ?
Jean Monnet, c'est pas seulement un des pères de l'Europe. C'est aussi quelqu'un qui était aux États-Unis pendant la guerre. Il faisait partie de ces gaullistes qui avaient préféré mettre la largeur de l'Atlantique entre eux et les champs de bataille. Des gens comme Saint John Perse, des gens comme Claudel, qui par devant adulaient de Gaulle, le flattaient, mais par derrière essayaient de le discréditer. Et Jean Monnet devient le conseiller de Giraud et devient le conseiller d'un certain Harry Hopkins, qui est le secrétaire des affaires internationales de Roosevelt. Et il conseille dans une note secrète datée du 17 juin datée d'un peu plus tôt, de mai 43, il conseille d'éliminer de Gaulle, de le détruire.
Éliminer
et la note est très ambiguë parce qu'on ne sait pas s'il s'agit d'une élimination politique ou d'une élimination physique. Il dit que de Gaulle doit être détruit.
Pourquoi il est à ce point hostile à de Gaulle, Jean Monnet ?
Parce qu'il sait très bien que de Gaulle va se rebeller, ne laissera pas les Américains déclencher leur impérialisme à l'issue de la guerre. Il est partisan de Giraud, qui, comme lui, est soutenu par les Américains. De Gaulle est assisté par Churchill, mais il est détesté par les Américains jusqu'à la fin de la guerre, parce qu'ils savent très bien qu'il va les empêcher de mettre la main sur l'Europe après la guerre. Et c'est ce qui s'est passé.
D'autres pépites, d'autres diamants bruts à découvrir dans un instant sur RTL, notamment un manuscrit signé Blaise Pascal.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Nos archives sont pleines de trésors, des manuscrits, des télégrammes, des photographies qui témoignent de ces instants où l'histoire bascule. On découvre ces pépites grâce à notre invité, l'écrivain Jean-Pierre Guénon. Alors on va pousser maintenant les portes de la Bibliothèque nationale. Vous pouvez nous décrire ces lieux où vous avez l'habitude de travailler ?
Ce sont des lieux magiques et moi j'ai le regret de l'ancienne salle de lecture de la rue de Richelieu, la salle Labrousse, qui était une basilique laïque absolument fabuleuse. Eh bien écoutez, la Bibliothèque nationale, on ne trouve pas seulement des livres imprimés, des livres maintenant numérisés. On trouve des manuscrits, on trouve des estampes, on trouve des monnaies, des médailles, des antiques. Alors j'ai toujours été un amoureux
des
traces. Eh bien c'est tout ce qui concerne l'Antiquité, c'est-à-dire ça peut... Il y a par exemple le trône du roi d'Agobert. Colbert, hein, voilà, celui qui mettait sa culotte
à l'envers.
Voilà. Et les manuscrits, c'est quelque chose de merveilleux. Vous l'avez vu avec ce projet de communiqué de presse.
De Dwight Eisenhower, oui.
Oui, il immortalise l'instant, le moment où les choses basculent. C'est pareil pour les écrivains, avec leur rature, avec leur rebord. C'est quelque chose de formidable. Et justement,
seuls les écrivains peuvent avoir accès à ces manuscrits feuilletés,
les chercheurs, c'est de plus en plus ouvert, et puis le web est là, qui de plus en plus met en ligne et numérise ces documents. Ce qui fait qu'on peut, à 2h du matin, moi je dors très peu, on peut avoir accès aux richesses de toutes ces bibliothèques. Je vous recommande Gallica, c'est le site de la Bibliothèque Nationale de France, et c'est quelque chose de fabuleux.
Et vous publiez avec Le Monde ce hors-série Instant d'Histoire, Jean-Pierre Guénaud, dans lequel on trouve deux manuscrits qui datent de novembre 1654. Qui les écrit ?
Pascal, qui est cet être difforme, cassé, qui sublime ses infirmités par son esprit, par la force de son esprit, et c'est la nuit de la grâce. Ce soir-là, il se met à prier, il commence à réciter son catéchisme très bêtement, et puis d'un seul coup, boum ! Il y a quelque chose qui entre en lui, qu'il pénètre, et réalise que les mots sont dérisoires. Alors il arrête. Il est en train d'écrire à l'arrache, comme ça, ce qui lui passe par la tête, et il redémarre. Il écrit « feu ». Et là, il y a les fameuses stances de Pascal. Joie, joie, pleurs de joie. Il se passe quelque chose de formidable. Il est transcendé par la grâce. Alors son premier manuscrit...
Donc je vous interromps, c'est une révélation mystique.
C'est une révélation mystique qu'il traduit tout de suite en écrivant. Son premier manuscrit... est totalement illisible. Il n'arrive même pas à se relire lui-même. Donc il sort un deuxième papier, il recopie au propre, très nettement. Ouais. Les deux vont être cousus dans son pourpoint, dans sa chemise.
Il faut en lire un petit extrait, si vous voulez bien.
Et quand Pascal va mourir, on va retrouver ses pensées éparses, vous savez, tout le problème qu'il y a pour les éditer dans le bon ordre. Et puis, on va retrouver les deux feuilles cousues dans son pourpoint, le brouillon.
Où on peut lire, par exemple.
Et puis la transcription.
Oubli du monde.
On peut lire feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nom des philosophes et des savants, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Et il dit un peu plus tard, joie, joie, pleurs de joie. C'est magnifique. C'est l'allégresse. C'est la sérénité. Et il a trouvé la sagesse.
Et donc, pardon Sidonie, il les a portés sur lui
jusqu'à la fin de sa vie.
Ces deux manuscrits.
Jusqu'à la fin de sa vie, les deux manuscrits. Et ces deux manuscrits ont été décousus, sortis de sa chemise après sa mort. Les pensées, on continue à ergoter dessus pour essayer de trouver leur bon ordre et de les publier toujours plus fidèlement, le plus fidèlement possible. Et quant à ces deux feuillets manuscrits fascinants, ils sont dans ce hors-série du Monde, Instant d'Histoire, mais les originaux sont à la Bibliothèque nationale.
Alors on va faire un bond dans le temps maintenant pour se retrouver en avril 1792 où se trouve Louis XVI et qui se présente face à lui.
Louis XVI est déjà, ça va mal pour lui. Et simplement, il y a un dénommé Guillotin qui était un député qui n'admettait pas que les gens se fassent raccourcir en fonction de leurs moyens, plus ou moins proprement. Quand vous étiez décapité, si vous aviez de l'argent, le bourreau avait des armes bien affûtées, c'était un bon bourreau. Si vous n'aviez pas assez d'argent, le bourreau était un mauvais bourreau, et pour vous couper le cou à l'épée ou avec autre chose, il arrivait qu'il s'y prenne à 5 ou 6 fois. Évidemment, c'était un peu pénible. Alors on a voulu imaginer une machine, Guillotin a fait tout ce qu'il pouvait pour appeler à l'invention, et c'était un certain Louis qui était un chirurgien qui a inventé la guillotine. Et toute sa vie, Guillotin était furieux parce qu'on lui a tellement attribué l'invention de cette machine qu'elle s'est appelée guillotine. En fait, le vrai nom de la guillotine, et on l'appelle comme ça en argot encore dans les prisons, on l'appelait comme ça tant que la peine de mort n'a pas été abolie, c'était la Louison, voilà. Et alors, le bourreau, à l'époque, c'est Sanson. C'est un ami de l'inventeur, Louis. Et le roi est toujours régnant, il n'est pas encore décapité, il est envoyé de proposer cette invention au roi. Et le roi est fin mécanicien. C'est pas un idiot, Louis XVI, on en a fait un crétin pour le guillotiner sans scrupule. Et il dit, c'est bien, il est rond, votre couteau, s'il était oblique, ça serait beaucoup mieux. Alors on a testé ça sur des moutons, ça a donné raison à Louis XVI en 92. Louis XVI qui ne savait pas que il travaillait sans le savoir à
adoucir
ce que serait son propre supplice.
Voilà encore une histoire, voilà encore une archive fascinante. On en a d'autres, Sidonie, à venir.
Et oui, pour comprendre l'histoire, on va chercher la preuve par l'image. Pour la prison de la Bastille, c'est une maquette que l'on va découvrir ensemble sur RTL. Restez avec nous, les curieux.
Comme vous,
Ils sont curieux. Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
110 documents d'archives qui rendent l'histoire vivante. C'est le titre du hors-série de nos confrères du Monde, publié avec les éditions Garnier, la collection Instant d'Histoire. Jean-Pierre Guénaud, vous nous racontez certains de... Évidemment, on n'a pas le temps de faire les 110, mais c'est pas grave, ça donnera envie de lire ce hors-série. Certains de ces témoignages bruts du passé, ces diamants bruts, comme vous dites. Comment vous les avez choisis? Parce que j'imagine qu'il y en a encore beaucoup plus dans nos archives.
Ce sont des glanes d'historiens. À chaque fois que la vie fait irruption, de façon très forte, comme ça, à chaque fois qu'un document vous donne un choc, et puis surtout... L'histoire est un formidable moyen de transmission entre les générations. Moi, j'ai une petite phobie. Je pense que dans un pays comme la France, on désigne des boucs émissaires. Traditionnellement, ça a souvent été le juif, l'arabe, ça a pu être l'italien aussi. Mm-hmm. Dans les 30 ans à venir, le bouc émissaire, ça a déjà commencé, ce sera le vieux. Donc tout ce qui permet une réunion, tout ce qui permet de transcender cette rivalité intergénérationnelle, car nos enfants vont avoir à quitter des factures qu'ils n'ont pas générées, donc ça va poser des problèmes. Il y aura 20% de vieux, entre guillemets, nantis, détestés, honnis, et puis 80% de vieux totalement dépendants. On nous dit qu'on va finir centenaire, on ne sait pas dans quel état. Donc, j'ai pu remarquer que certains terrains de l'histoire étaient formidables et permettaient un dialogue entre les grands-parents et les petits-enfants. Et c'est avec ça, et c'est à ça qu'on arrive avec
l'histoire. Parce qu'une archive, c'est concret aussi à montrer à un enfant, c'est une pièce d'histoire, c'est pas juste un cours un peu froid et sans émotion que vous décriviez tout à l'heure.
Bien sûr, c'est ce qui produit un déclic, et ce qui fait que vous vous rendez compte que l'histoire n'est pas une énergie fossile, contrairement à ce que beaucoup de barbares croient, c'est une énergie renouvelable.
Le pantalon de Jeanne d'Arc, tiens, par exemple.
Ah ben, Jeanne d'Arc.
En quoi cette histoire, elle est émouvante et transmissible à nos petits-enfants?
Nous avons appris quelques sornettes à l'école. On ne nous a pas appris quel argument l'évêque Cochon avait vraiment utilisé pour pouvoir griller Jeanne d'Arc. Sous l'Inquisition, il ne suffit pas d'être coupable. Il faut être parjure, relapse, récidiviste. Alors, il fait jurer à Jeanne que jamais plus elle ne s'habillera en homme. Ça sent le fagot à l'époque de s'habiller en homme. Le problème, c'est qu'on ne fait pas la guerre en tutu. Alors, Jeanne d'Arc accepte, elle finit par jurer, elle refuse pendant longtemps. Et le jour où elle accepte, on la change de garnison. Elle va être gardée par des soudards anglais de la dernière espèce, et là, elle réalise vite que cette toute jeune femme, très séduisante, risque d'être victime d'une tournante. D'autant plus qu'on lui arrache ses vêtements. Et là, elle a envie d'aller aux toilettes, c'est tout bête. Elle va lutter pendant 2-3 heures. Et pour pas y aller toute nue... Pour pas être violée par les soudards anglais, elle est obligée de revêtir le seul habit qu'on achetait près d'elle, un habit d'homme. Et là, son sort est scellé. Et à la session suivante, Cochon lui dit « Vous êtes-vous réhabillée en homme ?» Elle dit oui, elle ne ment pas, elle dit pas pourquoi. Elle a sa petite fierté. Et à ce moment-là, Cochon fait inscrire dans le manuscrit des minutes du procès, conservé aujourd'hui à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, « Réponse mortelle ». En mauvais latin de cuisine. Donc on ne raconte pas que cet évêque de notre belle église, pour arriver à faire griller Jeanne d'Arc, l'a rendu passible d'un viol.
Et ce pantalon de l'horreur, on peut le voir.
Non, on ne peut le voir nulle part, mais simplement ces habits d'hommes, ils n'ont pas brûlé avec elle, parce que de toute façon, quand elle a été grillée sur la place de Rouen, elle était à nouveau habillée en femme.
Mais donc ce manuscrit, on peut effectivement le consulter. Vous nous avez dit bibliothèque de l'Assemblée nationale.
De l'Assemblée nationale.
Il y a beaucoup de lieux comme ça recèlent des pépites dont on ne soupçonne même pas l'existence.
Dans chaque département, il y a des bibliothèques départementales, des archives municipales. Vous avez des trésors. Qui sait que les manuscrits du plus grand poète breton, Tristan Corbière, sont à la bibliothèque municipale de Quimper. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples.
Bah tiens, voilà un autre exemple. Dans les réserves du musée du Berry, à Bourges, on trouve une drôle de maquette. Qu'est-ce qu'elle représente, cette maquette?
On en a un exemplaire au musée Carnavalet. Eh bien, vous savez, Tapie avait des ancêtres. Il y a toujours eu des affairistes, des grands affairistes très doués. Et il y avait un certain Palois qui a été chargé par les autorités de la Révolution de démolir la Bastille. Alors lui, il a tout recyclé. Il a revendu les pierres. Quand vous passez devant l'Assemblée nationale, le pont de la Concorde, il est fait avec les pierres de la Bastille. Tout a été revendu. Avec les ferrures de la Bastille, il faisait des images, des médailles, non pas pieuses, mais des médailles révolutionnaires. Tout était revendu.
Donc il s'est enrichi avec...
Et alors cet homme on vit un anniversaire, aujourd'hui c'était la rentrée parlementaire. Il a arrosé tous les députés nommés par la Révolution. Chaque député a reçu une pierre de la Bastille, sculptée en Bastille. La main-d'œuvre coûtait pas cher. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ?
C'est énorme.
Les moindres détails de la Bastille. Chaque député a reçu sa pierre. C'était du marketing direct. C'était une façon de les mettre dans sa poche.
Un produit dérivé, presque, qu'il avait inventé. Oui.
Parce qu'ensuite, quand la terreur a progressé, on s'est bien rendu compte du fait que cet homme était infiniment malhonnête. Il a été condamné à mort et est arrivé à sauver sa tête tellement il avait arrosé l'ensemble des parlementaires en leur offrant ses cadeaux, ses goodies. C'est un mot qu'on n'employait pas à l'époque.
Et ces pierres sculptées, ces goodies, on peut les observer. C'est cette fameuse maquette qu'on peut découvrir au musée.
Il y en a une dans le Berry, à Bourges, et il y en a une au musée Carnavalet à Paris.
Alors, on a une autre histoire à vous raconter juste après les informations. Elle concerne le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, héros glorifié par le régime de Vichy en 1941, notamment grâce à cette chanson.
Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas.
Eh bien, cette chanson, c'était un plagiat. On vous le démontre juste après les infos sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Mesdames, messieurs, monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle.
Français, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France.
La curiosité est un vilain défaut.
Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de fauchetons. Il n'en restera guère de tous ses fils de Pétain.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pétain moqué par Pierre Dac, voilà une belle archive, une belle pépite retrouvée par notre réalisateur André Facetta. Et nous, on retrouve notre invité, l'écrivain Jean-Pierre Guénaud, qui a déniché dans les archives des pépites, des diamants bruts, comme vous les appelez, qui permettent de rendre l'histoire vivante et éternelle. Et c'est important, cette transmission entre les générations. Grâce à vous, on a lu un manuscrit de Blaise Pascal, on a palpé un parchemin taché du sang de Robespierre, on a observé une maquette de la Bastille sculptée dans la pierre de la prison. Et juste avant les infos, on parlait de Pétain, le maréchal Pétain, que la propagande de Vichy porte au nu en 1941, notamment grâce à cette chanson qu'on a écoutée, Maréchal, nous voilà. Jean-Pierre Guénaud, cette chanson, c'est un plagiat en réalité.
Et oui, alors il faut citer un personnage magnifique qui est Casimir Oberfeld. Et je publierai un livre au début 2018 aux éditions de l'Archipel intitulé La Mélodie volée pour lui rendre hommage. Casimir Oberfeld, c'est un juif polonais qui s'exfiltre et puis qui exfiltre ses parents de Pologne dans les années 20. C'est un des plus grands compositeurs de musique de film et de tubes. Les tubes de Fernandel, de Maurice Chevalier, de Joséphine Baker, de l'entre-deux-guerres. Et il va lui arriver une mésaventure. Au début des années 30, il pond une comédie musicale qui s'appelle « La Margoton du bataillon ». La mélodie va lui être volée trois fois. Une première fois en 36, elle devient un hymne pour le Parti socialiste. Une deuxième fois en 37, elle devient la chanson officielle du Tour de France. C'est d'actualité. Et puis une troisième fois en 41, elle devient la mélodie de Maréchal, nous voilà. Ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors, il y a deux catégories de gens qui chantent cet hymne. Il y a les gens qui n'ont pas le choix, car dans la zone nord, elle remplace la Marseillaise. Et quand on chante la Marseillaise, c'est qu'on est un résistant qui va être fusillé. Et puis, il y a les pétainistes, les fascistes monstrueux et fanatiques, qui ne savent pas, quand ils entendent Maréchal, nous voilà, que c'est la mélodie d'un juif polonais qui va mourir pendant la Grande Marche, qui va précéder la libération d'Auschwitz, car Casimir Oberfeld a été arrêté en 1943 à Nice. Il a été envoyé à Auschwitz, et avant de mourir dans la Grande Marche qui a précédé la libération du camp, il a été pendant un an le pianiste d'Auschwitz. C'est un destin fabuleux qui méritait bien le livre que je prépare.
Et on va donc lui rendre hommage en écoutant l'original, la chanson de ce film,
La Margoton du bataillon.
La chérie du bataillon, c'est la jolie petite Margoton. Et chacun lui fait la cour. Oui, mais c'est bien en vain qu'on tourne autour. C'est pour cela que les soldats chantent pour elle à l'unisson cette chanson.
Voilà, chanson signée Casimir Oberfeld. Je n'écorche pas son nom.
Casimir Oberfeld et donc Margoton. Là, c'est le début du refrain. C'est Maréchal, nous voilà.
Mais oui, on retrouve.
Donc on passe de Margoton au Maréchal. C'est intéressant.
La vérité rétablie. 110 documents d'archives qui rendent l'histoire vivante. C'est le titre de ce hors-série du Monde publié aux éditions Garnier. On y trouve un un autre plagiat qui est signé, cette fois André Malraux, et pas dans n'importe lequel de ses discours. Extrait.
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues.
Pourquoi ce discours d'André Malraux, Jean-Pierre Guénot, est un plagiat?
Mais parce que le 11 novembre 1920, il y a l'équivalent pour la Première Guerre mondiale de cet événement dans les années 60 où Malraux accueille les cendres de Jean Moulin au Panthéon. Le 11 novembre 1920, on accueille le corps du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. On aurait dû l'accueillir au Panthéon, mais ça a produit des remous politiques dans l'extrême droite. Les gens ne voulaient pas que le soldat inconnu cohabite avec Zola ou avec Gambetta. Et ce jour-là, un député fait un discours pour accueillir le soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Pendant longtemps, on a eu des actualités pâtées, le film semblait muet. Et quand j'ai sorti Parole de Poilu il y a une vingtaine d'années, ça a créé du buzz. Et on a retrouvé chez un collectionneur la bande mère du film d'actualité dont toutes les copies son avaient disparu. Mais pas la bande mère, pas la matrice.
Donc on entend la voix de ce député.
Et on entend la voix de ce député et son discours commence par... Entre ici, petit soldat. Alors c'est fabuleux parce que Malraux est le génie que l'on sait.
Ben oui.
Enfin, il était aussi un peu coquin par moment. Et là, il est évident qu'il s'est inspiré du grand équivalent. Mmh. L'accueil du soldat inconnu, c'est comme l'accueil de Jean Moulin. Arc de Triomphe, Panthéon.
On a remarqué d'ailleurs que les discours politiques circulent de droite à gauche en passant par l'extrême droite. C'est assez, toujours assez étonnant.
Oui, mais ça, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui surveillent ça et des applications qui permettent de les détecter. Dans ce hors-série du Monde, 110 documents d'archives qui rendent l'histoire vivante, vous racontez aussi une histoire qui concerne Jean Moulin. On est le 17 juin 1940. Les troupes de la Wehrmacht s'installent à Chartres. Il est préfet. Que lui demandent les Allemands et comment réagit-il ?
Eh bien, le commandant nazi qui envahit la région, d'abord Jean Moulin fait partie des rares préfets qui restent au travail, qui ne s'en vont pas, qui s'occupent des gens. Et là, on cherche à lui faire signer un papier comme quoi les Sénégalais seraient responsables des milliers de morts qu'ils ont sur les routes et qui ont été, en fin de compte, mitraillés par les avions allemands et italiens. Mmh. Bon, Jean Moulin a participé à la fin de la Première Guerre, il sait très bien ce que sont des corps mitraillés, il refuse de le faire. Alors, on le torture, on le transfère dans un cul de basse fosse. Et la grande phobie de Jean Moulin, c'est de mourir sous la torture. Il est mort en martyr. Et il pense qu'il va craquer à un moment donné. Et un
Donc
soir,
là, on est au tout début de la guerre.
Il est enfermé avec un Sénégalais parce qu'on veut faire croire qu'il est homosexuel. Enfin, le nazi qui dirige tout ça est un homme monstrueux. Et un soir, pendant que le pauvre Sénégalais dort au fond de la cellule, il ramasse un tesson de bouteille, il se tranche la gorge. Il est en uniforme de préfet. Comme les uniformes d'académiciens, avec des bicornes magnifiques, des feuilles de chêne. Bon. Le lendemain matin, on le retrouve. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son cul de basse fosse, c'est l'annexe d'un hôpital en activité. Donc les nazis sont très embêtés. Il est toujours préfet en exercice. Oui. Il n'a pas été destitué. On le transfère aux urgences et on arrive à lui sauver la vie. Et c'est magnifique. Et quand on sait que Jean Moulin est mort à la fin de la guerre, en ayant refusé de parler sous la torture, quand il est mourant, on l'envoie à Berlin. On veut tester sur lui la drogue, le pain total qui fera beaucoup d'effets sous la guerre froide. Et on sait qu'il est mort sans parler. Et quand l'état de son corps a été décrit, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est un être magnifique, Jean Moulin.
Et il y a un document particulièrement émouvant qui témoigne de cette hantise qu'il avait de craquer sous la torture. C'est une lettre ?
Ce sont les lettres qu'il écrivait à sa mère et à sa sœur en disant que si un jour il disait des choses contre sa volonté, ce serait contre sa volonté. Mais on sait qu'il n'a jamais craqué.
On continue de raconter d'autres histoires vivantes, Sidonie ?
Oui, des histoires de microbes dans un court instant. Merci beaucoup, Jean-Pierre Guénot. 110 documents d'archives qui rendent l'histoire vivante. C'est le titre de votre hors-série du Monde avec les éditions Garnier. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup, vous. Jean-Pierre Guénot. J'avais envie d'en prendre encore une, mais c'est pas grave. C'est l'heure des microbes, c'est normal. Instant d'histoire, ça s'appelle ce hors-série. Vraiment,
les microbes, c'est la vie
vraiment,
aussi.
Vraiment, on vous le conseille et ça va être génial.
Vous écoutez RTL.